Nous allons commencer par le début, c'est-à-dire par le livre de la Genèse. Première page ou deuxième page de votre Bible, ça dépend de l'éditeur. C'est au chapitre 1, les versets 26 à 28. J'utilise la Bible dite du semeur. Genèse 1, 26. Et Dieu dit, faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre, et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit en disant, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous-en maître, et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel, tous les reptiles et les insectes. » Ce texte est la base immuable de toute l'anthropologie humaine. Tout ce que nous devons savoir sur notre rôle dans le monde part de ce fondement. Et vous aurez remarqué, n'est-ce pas, que le texte insiste à plusieurs reprises sur cette création à l'image de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes la couronne de la création. Pourquoi ? Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et le reste de la création n'est pas créé à l'image de Dieu. Quelle est la conséquence de cette chose toute simple, dite avec quelques mots ? En quoi cela est-il important ? Si nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est ce que je voudrais que nous voyons à travers la prédication de ce matin. La création de l'homme intervient le sixième jour, c'est le couronnement, l'apothéose de toute cette création de Dieu. Et le psalmiste lui-même, dans le psaume 8, verset 5, déclare avec emphase, « Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu ». Et tu l'as couronné de gloire et de splendeur, tu lui as donné la domination sur les œuvres de ta main, de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Quel extraordinaire privilège, mes amis. Dieu nous met tout ce qu'il a créé sous nos pieds. On voit bien donc que nous sommes nettement au-dessus du tout reste de la création. Blaise Pascal disait que l'homme n'est ni ange ni bête. Nous ne sommes pas des bêtes, nous ne sommes pas non plus des anges, c'est quelque chose d'entre les deux. Mais parfois on oublie ce fondement anthropologique. Oui, il est dit de nous seuls, race humaine, que nous sommes à l'image de Dieu. C'est pourquoi notre vie, ta vie, est importante aux yeux de Dieu. Aujourd'hui, la vie a de moins en moins d'importance. Vous voyez bien comment on essaie de diminuer cette importance de la vie, de relativiser tout cela. Mais si nous sommes à l'image de Dieu, nous devrions faire beaucoup plus attention à ce fondement anthropologique. Mépriser la vie, c'est mépriser ce cadeau extraordinaire que Dieu nous fait en étant à son image. La parole de Dieu nous invite à être à l'image de Dieu dans ce monde, d'être des témoins de Jésus-Christ, de Dieu, parce que nous sommes à l'image de Dieu. Créer à l'image de Dieu signifie que l'homme possède des caractéristiques qui sont des caractéristiques de Dieu. Saint Augustin a dit qu'il y avait trois caractéristiques particulières de l'homme qui sont précisément cette image de Dieu. L'intelligence, la mémoire et la volonté. Des caractéristiques que la nature n'a pas, que les plantes n'ont pas, que les animaux n'ont pas. Saint Augustin était tellement interpellé par cela qu'il a appelé la mémoire, l'intelligence et la volonté la trinité intérieure de l'homme. Seul l'homme, à travers ses caractéristiques, intelligence, volonté, mémoire, peut être en relation avec Dieu, créé à son image pour pouvoir être en relation avec Dieu. Dieu nous confie à travers cette image son travail, son œuvre, sa création. Il l'a faite pour nous. Et donc, nous en sommes les gestionnaires. Nous devons la soigner, nous devons la diriger. C'est notre rôle en tant qu'homme créé à l'image de Dieu. Oui, chers amis, l'homme, dans le plan de Dieu, doit diriger la nature. L'homme doit être partenaire de Dieu pour contenir, pour gérer, pour maintenir cette création qu'il nous confie. Nous devons avoir ce rôle de participer à la création de Dieu et il nous lance un défi. Continue à faire ce que moi je fais, la création. Et vous allez voir que c'est important dans toute cette question de l'énergie. Le texte biblique, chers amis, est clair. Faisons l'homme à notre image pour qu'il domine. Je vous avoue que beaucoup de chrétiens sont gênés lorsqu'on dit que l'homme doit dominer la nature. Parce que le verbe dominer est quelque chose qui aujourd'hui n'est pas politiquement correct. Pourtant, c'est la Bible qui dit que nous devons dominer la nature. Le psaume 8 l'a bien dit, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. La nature est sous nos pieds. Mais ça, c'est choquant parce que nous ne sommes pas habitués à ce langage aujourd'hui de domination. Dieu nous confie la nature pour la dominer. Si Dieu règne sur l'univers entier, l'homme, son représentant, est appelé à dominer, à gérer cette nature. La terre est le royaume que Dieu confie à l'homme. C'est pour ça que je pense que nous sommes des lieutenants. Nous sommes les lieutenants. L'étymologie le dit bien. Nous tenons sur terre à la place de Dieu pour gérer cette nature qu'il a créée. L'homme tient lieu de Dieu sur terre et sur toutes les créatures. Il représente Dieu sur terre en sa qualité d'image de Dieu. C'est une responsabilité et c'est un privilège que personne d'autre n'a. Dieu place l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le gérer, pour le dominer. C'est le contraire de ce que nous entendons aujourd'hui dans notre société moderne. Et c'est pour ça que nous, même chrétiens, nous sommes gênés d'utiliser ce mot « dominer ». Les animalistes, les environnementalistes proposent de donner beaucoup plus d'importance à la nature et donc s'opposent à cette domination de l'homme sur la nature. Je répète Genèse 1, 28. Dieu demande à l'homme d'assujettir, c'est le terme de Darby, assujettir la terre et second dit soumettre. Assujettir signifie placer sous la domination, rendre stable. Chers amis, je sais qu'aujourd'hui nous avons un discours tout à fait différent dans notre société. La nature, si elle n'est pas dominée, devient envahissante. Je suis un écolo concret. Nous faisons avec mon épouse un potager, un grand potager. Nous produisons beaucoup de légumes. Nous avons deux congélateurs remplis de légumes. Nous avons une serre pour produire des tomates et autre chose. Donc, je travaille la terre, et je peux vous assurer que c'est vraiment ennuyant d'enlever les mauvaises herbes. Mais c'est vraiment décourageant. Mais puis, on est content quand on remplit le congélateur de bons légumes. Parce que la nature est envahissante. Un collègue est allé à Tchernobyl. Et il est revenu impressionné de voir comme les maisons, les toits de maisons, les rues, les accotements sont éventrés par la nature envahissante. La ville a été abandonnée à cause de la catastrophe et la nature reprend ses droits et a envahi toute la ville de Tchernobyl. Parce que si vous ne contrôlez pas la nature, c'est elle qui va envahir tout. C'est pour ça que le Seigneur nous demande de dominer la nature. L'Europe était une vaste forêt. Et au cours du premier millénaire, on a eu de cesse de défricher pour faire des champs, pour faire des bocages. Parce qu'avant, c'était des forêts. Et donc, l'homme européen a complètement géré la nature. Pendant deux millénaires, mais aujourd'hui, ce n'est plus politiquement correct. Laissez un champ à l'abandon et vous verrez bien qu'il n'y a plus moyen d'en tirer quoi que ce soit. Assujettir la terre ne peut se faire que par le travail. Or, le texte que nous avons lu précède la chute. Et en conséquence, ce travail de domination de la terre n'est pas une conséquence du péché. Ce n'est pas parce que l'homme a péché qu'il faut dominer la terre. Ça fait partie du plan de Dieu directement. Et donc ne confondons pas, ne disons pas « oui, mais c'est parce que nous sommes après la chute ». Pas vrai du tout. Dieu demande à l'homme d'utiliser le matériau qui lui est donné, la nature, et son intelligence, l'image de Dieu, pour continuer son œuvre créatrice. Lorsque l'homme travaille, qu'il utilise la nature et qu'il utilise son intelligence, il fait ce que Dieu a fait, c'est-à-dire créer. Cette image de Dieu nous responsabilise également dans notre acte créateur. Dans le premier chapitre de la Genèse, lorsque on nous dit que Dieu créa, le verbe hébreu utilisé est le verbe bara. Dieu crée à partir de rien par sa parole. Il crée ex nihilo. Il n'y a rien et il crée. Bara. Mais ensuite, on n'utilise plus le mot bara. On utilise le mot karna. Parce que l'homme n'est pas un vrai créateur comme Dieu. L'homme est un artisan qui prend ce que Dieu lui donne et il le transforme pour en faire tout ce qu'il y a alentour de nous dans notre vie quotidienne. Nous ne sommes donc pas des vrais créateurs qui avons cette capacité de parler et de créer quelque chose. Nous sommes des artisans qui utilisons le matériau que Dieu nous donne, c'est-à-dire la nature. Quand Ève, au chapitre 4 de Genève, accouche, elle dit « Avec l'aide de Dieu, j'ai formé un homme ». D'autres textes disent « J'ai créé un homme ». Mais elle n'utilise pas le mot « bara » parce qu'elle sait très bien qu'elle n'est pas partie de zéro, elle. Et ensuite, elle le dit « C'est avec l'aide de Dieu que je fais ça ». Donc je ne suis pas une vraie créatrice, je suis une transformeuse, de cette nature que Dieu me confie. En créant donc Dieu, l'homme à son image, Dieu nous donne cette capacité de participer à son œuvre, de créer de la valeur ajoutée. Est-ce qu'en Suisse, vous avez la taxe sur la valeur ajoutée? Oui, vous avez une taxe sur la valeur ajoutée. Eh bien, nous sommes des ajouteurs, si je vous permettais l'expression, de valeur à la nature. Nous prenons la nature dans un état et nous lui ajoutons de la valeur à travers notre travail. Si vous voulez travailler, c'est parce que vous devez soumettre la nature. Et si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas dans le plan de Dieu. Jusqu'à l'époque récente, personne n'aurait eu l'idée de prêcher sur ça comme je le fais ce matin. Parce que c'était évident. Pour toutes les générations qui nous ont précédées, c'était évident. Ce n'est que depuis trentaine d'années, 35 ans, 40 ans, qu'on commence à perdre nos repères sur cette question. Avant, c'était tout à fait logique de penser que l'homme utilisait la nature pour la transformer. Aujourd'hui, nous commençons, même nous chrétiens, à être prudents sur cette question, parce que nous savons que le monde pense différemment. En fait, nous sommes aujourd'hui dans ce qu'on appelle un monde où il y a l'écologie politique, l'écologisme, qui est pour moi une nouvelle religion. Et je vais m'expliquer. Cela a commencé avec un professeur d'histoire des États-Unis qui s'appelle Lynn White Jr. Il a publié un article dans une revue scientifique, Science, prestigieuse, en 1967. Et voici ce qu'il a écrit. Nous continuerons à avoir une crise écologique qui empire jusqu'au moment où nous rejetterons l'axiome chrétien que la nature n'a pas d'autre raison d'exister que de servir l'homme. Tant notre science que notre technologie actuelle sont tellement imbues d'arrogance chrétienne envers la nature qu'aucune solution à notre crise écologique ne peut être attendue de seule. Puisque les racines de nos problèmes sont si largement religieuses, le remède doit également être essentiellement religieux. La source des difficultés environnementales pour les écologistes, c'est la Bible. C'est pas moi qui le dis. Arne Naas, un Norvégien fondateur de l'écologie politique, a écrit ceci. La sagesse de Dieu est ridiculisée parce qu'il a engagé une créature aussi ignorante et si ignoble que l'Homo sapiens pour administrer et garder cette vaste nature à laquelle on comprend si peu. En d'autres mots, pour Arne Naas, Dieu c'est un imbécile parce qu'il a créé, il a confié à l'homme, un autre imbécile, la gestion de la nature. Le penseur français Pierre Rabhi, il était en Belgique dernièrement pour une émission de télévision, a écrit « La Bible, entre autres, porte la responsabilité très grave d'avoir favorisé et même stimulé l'attitude dominatrice et despotique de l'homme vis-à-vis des autres créatures. » L'écologie moderne, qui n'a rien à voir avec l'écologie qu'il y a dans les laboratoires, n'est-ce pas ? C'est autre chose. Trouve que ce qu'on vient de lire ce matin est ridicule et idiot. Tout le monde est ridicule dans cette histoire. Dieu, parce qu'il le confie à l'homme sa création, et l'homme parce que c'est un imbécile qui ne peut pas gérer la nature. Stéphane Ferré, avec qui j'ai débattu sur France Culture l'année dernière, a écrit un livre, Deep Water Horizon, et il écrit ceci. Il ne tient qu'à un autisme invétéré de ne pas réaliser que les orangs-outans ou les dauphins sont des personnes à part entière. Le christianisme est une métaphysique de la mort parce qu'il déprécie la vie terrestre au profit d'une vie future qui n'existe pas. Chers amis, en tant que chrétiens, nous devons ouvrir nos yeux et comprendre que le monde écologique est anti-chrétien. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent qu'ils sont anti-chrétiens. l'homme est le parasite de la nature. Chaque fois que vous entendez quelqu'un parler de sauver la planète et de mettre la nature au même niveau que l'homme, posez-vous des questions, parce que là, vous avez en face de vous quelqu'un qui n'aime pas la parole de Dieu et qui trouve que c'est ridicule. De la même, des grands prêtres de l'écologisme politique, le judéo-christianisme n'est pas compatible avec leur religion. Les penseurs de l'écologie profonde sont fondamentalement antichrétiens. Et j'insiste, l'écologie est une science. L'écologisme est une religion. Cela peut vous surprendre, mais c'est un fait. Je n'ai pas inventé ces textes. Bien entendu, je veux être clair et ne pas être mal compris, n'est-ce pas ? Nul ne conteste la nécessité de limiter la pollution et d'en combattre les effets. Nous sommes les gestionnaires de la Terre, nous devons en rendre compte à Dieu. On n'est pas là pour détruire ce que Dieu nous confie. Hein, c'est clair. Mais éviter la pollution, c'est le bon sens même. Mais vénérer la planète et la nature, ça, c'est plus du christianisme, ni du judaïsme d'ailleurs. Si tu es chrétien, enlève cette idée farfelue de ta tête. Méfie-toi de ceux qui veulent parler de sauver la planète, leur nouvelle déesse. La rédemption de la nature ne viendra pas de l'homme. Elle viendra du texte que notre frère a lu tout à l'heure. Il se demandait s'il y avait une dimension écologique. Ben oui, il y a une dimension écologique. Je vais relire ce texte, du moins une partie. Romains 8, 20. Car la création a été soumise au pouvoir de la fragilité. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Il lui a toutefois donné une espérance. Il y a de l'espoir pour la planète. C'est que la création elle-même sera délivrée de la puissance de destruction qui l'a servie pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Nous le savons bien, en effet, jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs de l'enfantement. La planète sera sauvée lorsque Christ reviendra. Elle ne peut pas être sauvée par les hommes. Christ est venu pour sauver les hommes et pas pour sauver la nature. Christ est venu pour te sauver toi et pas pour sauver un arbre. La régénération de la nature se fera avec Christ à son retour. Ça ne veut pas dire qu'il faut polluer, mais ça ne veut pas dire qu'il faut avoir l'espoir que nous allons sauver la nature. Pourquoi cette frénésie verte aujourd'hui? Puisqu'avant ça n'existait pas. Nos ancêtres trouveraient farfelu de parler comme ça aujourd'hui. Il y a deux raisons, il y en a plusieurs, mais je vais en aborder deux avec vous ce matin. Le premier, c'est parce que l'homme a besoin de spiritualité. Blaise Pascal, de nouveau, a dit qu'il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. L'homme a besoin de spiritualité. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Vous chassez le christianisme, il y a quelque chose d'autre qui va venir à la place. Et aujourd'hui, ce quelque chose d'autre, c'est l'environnementalisme. Pendant un temps, c'était l'athéisme. Ça existe encore, bien entendu. Mais aujourd'hui, la mode, c'est le vert. Ecclésiaste 3.11, un verset que j'aime beaucoup, nous dit que Dieu a mis dans le cœur de la pensée de l'homme l'éternité, la pensée de l'éternité. Dieu a mis en nous cette dimension de l'éternité. Et les écolos aussi ont cette dimension de l'éternité. C'est pour ça qu'ils n'arrêtent pas de parler de durable. Il faut que ça dure. Parce que Dieu nous a créés avec cette dimension de l'éternité. Dans un rapport de 1991, commandé par la Commission européenne Mark Leux a écrit ceci, c'était un rapport qui devait étudier les relations de la religion avec la politique. Et voici ce qu'il dit en conclusion. Ce qui ressort de ce rapport est qu'il est nécessaire d'inventer une nouvelle métaphore qui fasse pénétrer l'Europe dans le 21e siècle, dans la mutation culturelle, c'est-à-dire le réenchantement. Cette métaphore devra être holistique, éthique et participative. Les gens le disent. Il faut donner à l'homme un nouvel espoir, une nouvelle métaphore. Ceci est une métaphore. Mais il faut en donner une nouvelle, qui soit holistique, c'est-à-dire qui comprend tous les domaines de la vie, l'économie, la science, la foi, le commerce, la technique, tous les domaines de la vie, qui soit éthique, vous voyez bien comme on parle d'éthique aujourd'hui, et surtout qui soit participative, c'est-à-dire que chacun a son rôle. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de vous dire, tu as la capacité de sauver la planète, tu dois faire quelque chose, un petit geste aujourd'hui. L'homme moderne a besoin de se réinventer une métaphore, ou une religion, appelez ça comme vous voulez. On évacue le christianisme et on introduit l'environnementalisme. Et une des premières métaphores de l'environnementalisme, qui est holistique, éthique et participative, c'est la lutte contre le changement climatique. Le terme réenchantement est un terme technique. C'est-à-dire, voilà, le texte disait, il faut réenchanter. Que veut dire ce terme réenchanter? L'homme a évacué la spiritualité lors de la période des Lumières. En évacuant Dieu, l'homme devient le centre du monde, mais on enlève cette dimension spirituelle. Et de là découle le matérialisme. Le matérialisme qui n'assouvit pas l'âme, puisque l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et donc, il faut introduire une nouvelle religion, l'environnementalisme, et c'est pour ça qu'eux utilisent le mot « réenchanter le monde ». Remettre quelque chose de magique dans le monde. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement. On chasse Dieu et on introduit Gaïa, la déesse Terre. Et c'est là le deuxième point que je trouve intéressant dans cette raison de la frénésie verte. C'est précisément parce que l'homme préfère les idoles aux dieux vivants. Vous le savez, dans l'Ancien Testament, c'est rempli de textes où Dieu interdit l'idolâtrie. C'est pratiquement que ça, le texte de l'Ancien Testament. C'est toujours cette lutte contre l'idolâtrie. Dieu a créé un monde, comme on vient de le lire, où il n'y a rien de magique. Tout est créé par un Dieu et il n'y a rien de surnaturel dans le monde. Tout est simplement, purement, uniquement création, issue du Créateur. La lune ne sert qu'à éclairer. Le bois sert à chauffer. Il n'y a rien de divin dans tout cela. C'est pour ça que les Hébreux ont évacué dans leur texte fondateur toutes ces notions d'idolâtrie. Mais vous savez aussi comment l'homme retombe toujours dedans. Vous l'avez remarqué, le bois est devenu une nouvelle idole aujourd'hui. Il ne faut pas couper un arbre, hein. Écoutez la radio, vous allez voir combien de fois vous entendez ce genre de choses. Protéger la nature, ne pas couper les arbres. Dans Deutéronome 20, il y a une belle histoire aussi que Dieu demande de ne pas couper des arbres fruitiers parce que c'est un fruit, c'est bon pour l'homme. Et quand tu fais le siège d'une ville, ne coupe pas les arbres fruitiers. Si tu as besoin de bois, coupe un bois qui ne fait pas, qui porte pas de fruits. Vous voyez là l'équilibre de Dieu, là, qui s'intéresse aussi à la nature. En Allemagne, en 724, donc ça fait loin, n'est-ce pas, un missionnaire britannique, Wilfried de Wessex, s'est opposé aux frisons, parce que les frisons avaient des chaînes qu'ils considéraient comme des dieux. C'était le paganisme. Et ce missionnaire en avait tellement marre de voir des gens idolâtrer des arbres qu'il a pris une hache pour les couper. Et tout de suite, les frisons leur disent « Non, non, ne fais pas ça parce que tu vas mourir, un peu comme l'histoire avec Élie. Tu t'attaques aux idoles, ça va pas, tu vas mourir. » Eh bien, il a coupé les arbres et il n'est pas mort. Il est même devenu Saint Boniface. Et c'est le début de la christianisation de l'Allemagne. Parce qu'avant, l'Allemagne était païenne, on vénérait les arbres. En fait, toute l'Europe était païenne avant. Et le christianisme est venu évacuer toutes ces idoles. Dans l'épisode de Jonas, à la fin du livre de Jonas, vous savez que Jonas se fâche avec Dieu parce qu'il fait sécher une plante. Et Dieu lui dit, mais tu te casses la tête pour une plante et tu ne voulais pas aller prêcher à Ninive où c'est des hommes? Et reviens sur terre, hein, Jonas. Les plantes, d'accord, mais les hommes, c'est beaucoup plus important. J'ai l'impression qu'on aurait besoin aujourd'hui de ce rappel de Dieu, parce que on est souvent comme des Jonas, nous, aujourd'hui. Les végétaux, l'arbre n'est pas à l'image de Dieu. Nous sommes à l'image de Dieu. Ils sont d'une autre dimension, d'une autre espèce. Rien à voir avec la création. La nature n'est pas transcendante. Les Hébreux désacralisent complètement la nature, les chrétiens désacralisent la nature, et aujourd'hui, on réenchante la nature. Oui, l'homme a du mal à vivre sans quelque chose à laquelle il peut s'attacher. Le monde a sa religion, toujours, ou les chaînes, ou Christ. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, tu ne te prostreras pas devant elle, tu ne serviras pas, ton Dieu est jaloux. Dieu est jaloux, vous savez, c'est lui qui le dit. Je suis jaloux, parce que je vous aime, et je ne veux pas que vous alliez vers d'autres. Je vous aime tellement que je ne peux pas comprendre que vous alliez adorer quelqu'un d'autre. Romains 1, 22 à 25, ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles, eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Refusons d'échanger la nature pour Christ, ou plutôt l'inverse, refusons d'échanger Christ pour la nature. Refusons de former un attelage disparate. Les Hollandais ont un chrétien qu'ils apprécient beaucoup. Il s'appelle Abraham Kuyper. C'était un théologien qui était aussi premier ministre des Pays-Bas. L'ancien premier ministre des Pays-Bas, avant celui l'actuel, M. Balkenende, était aussi un chrétien comme nous. Mais celui dont je vous parle, il était de la fin du 19e siècle. Et tous les chrétiens évangéliques néerlandais connaissent Abraham Kuyper. Et dans une conférence qu'il a donnée à Princeton, aux États-Unis, en 1898, il a dit ceci. N'oublions pas que le contraste fondamental a toujours été, et toujours, et sera jusqu'à la fin le christianisme ou le paganisme, les idoles ou le Dieu vivant. Plus de 100 ans après de cette déclaration, il convient de constater que ce grand théologien avait vu juste. C'est le paganisme ou Jésus-Christ. La Bible est duale, mes amis. C'est pour ça que ça n'intéresse pas beaucoup les gens. Parce que la Bible est duale, le bien, le mal, la vérité, le mensonge, Christ, le paganisme. On est dans la ville de Calvin. Calvin a dit dans Institution 1.11, « L'esprit de l'homme est une boutique perpétuelle et de tout temps pour former des idoles. » L'esprit de l'homme est une boutique perpétuelle et de tout temps pour former des idoles. Nous sommes en pleine idolâtrie, mes amis. C'est ça la théorie verte, c'est l'idolâtrie. Qu'allons-nous adorer, le Dieu créateur ou sa création? On ne va pas rentrer dans les détails, mais ce qui se passe en France sur le gaz de schiste, ne croyez pas que c'est tout à fait transparent, n'est-ce pas? Il y a cette dimension spirituelle derrière tout cela. On ne va pas aller fracturer les entrailles de notre déesse. Dieu contrôle le monde. Il y a un cantique qui dit « Dieu tient le monde dans ses mains », n'est-ce pas? Il tient le monde dans ses mains. Je travaille dans ce domaine, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, et je pourrais vous parler de questions scientifiques, mais je vais aborder la question du changement climatique par la foi, à travers la foi et non pas à travers la science. Ça, c'est l'objet du livre que je vous ai présenté tout à l'heure. Je crois qu'il est difficile de concilier la croyance en un Dieu infiniment sage, infiniment puissant, infiniment fidèle, comme on l'a chanté tout à l'heure d'ailleurs. C'est ce qu'on a chanté, n'est-ce pas? Comment est-ce possible qu'un Dieu infiniment sage qui crée tout ait créé un climat qui va être perturbé par sa création? L'homme à cet orgueil de penser qu'il va perturber la création de Dieu qui va conduire à la catastrophe. Il y aura une catastrophe, la Bible nous en parle longuement. Mais quand Dieu voudra. Et pas quand le GIEC qui est dans votre ville le décidera. On a peur, on nous fait peur plutôt, ou on vous fait peur, parce que moi je n'ai plus peur, parce que la concentration du CO2 dans l'atmosphère avant la révolution industrielle était de 27 millièmes d'1% et qu'aujourd'hui elle est devenue à 40 millièmes d'1% et qu'à la fin du siècle elle pourrait arriver à 52 millièmes de pourcent. Et cette petite différence de millièmes de pourcent va perturber tout le climat qui a été créé par Dieu et qui évolue au gré de la nature depuis que le monde existe. La Bible enseigne que la terre et tout le système dépend de Dieu. Est-ce qu'on n'a pas chanté tout à l'heure, c'est lui qui fixe le cours des étoiles? S'il fixe le cours des étoiles, bien il fixe tout, y compris le cours de la température de la terre. Quel orgueil de penser qu'on va avoir un thermostat pour aller régler cette température. Pour ceux que la science intéresse, je veux vous parler de science aussi. Hein. Mais ici, on n'est pas là pour parler de science, on est pour parler de foi. Un créateur infiniment puissant, infiniment fidèle, se laisse faire par sa créature qui va perturber le climat. Je vous demande, est-ce que ce Dieu est vraiment tout puissant, comme on l'a chanté tout à l'heure ? Pour se laisser faire par nous. C'est pourtant ce qu'on nous dit partout, que nous allons perturber la nature. Dieu infiniment sage a créé un système climatique stable Et c'est le contraire de ce que dit la nouvelle religion. Vous savez que Dieu nous dit que le climat ne va pas changer ? Genèse 8, 21-22. Après que Noé descend de l'arche, il offre un sacrifice, et voici ce que Dieu lui dit. « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car l'orientation du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse, rien à faire, quoi. Et je ne frapperai plus tous les êtres vivants comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. » Cette structure poétique est ce qu'on appelle dans la théologie, ou en littérature plutôt, un mérisme. C'est fortement utilisé dans la Bible. Le ciel et la terre, ça veut dire tout l'univers. Le froid, la chaleur, ça veut dire tout le climat. L'été et l'hiver, ça veut dire toute la durée des temps. L'idée maîtresse de ce verset est que pour toute la durée du temps, il n'y aura pas de changement. Calmons-nous. Calmons-nous. Mais est-ce que l'homme peut continuer à se développer comme ça? Vous entendez tout le temps dire la même chose, n'est-ce pas? Vous imaginez si tous les Chinois ont une voiture? Ben, c'est justement ne pas faire confiance à Dieu. Vous savez que Abraham, Isaac, Jacob, les fondateurs du monothéisme, étaient des gens riches, n'est-ce pas? Et il y a un épisode un peu étrange dans Genèse 30, où Jacob commence à faire de la sélection entre ses brebis. Et son troupeau se développe beaucoup plus que ceux de son roublard d'oncle Laban. Mais lui est plus roublard encore que Laban, le fourbe Jacob. Et il a trouvé un truc pour que ses troupeaux se prospèrent beaucoup plus. Et puis, il y a un truc que je ne comprends pas. Il prend des branches de platane, des branches de peuplier, des branches de bouleau, et il commence à enlever la peau. Et il fait des bandes dans ses branchages, il les met en dessous de l'eau, où viennent boire ses brebis. Explosion de sa production. Qu'est-ce qu'il a fait, le brave Jacob? Il a utilisé la nature. Rien d'autre. Il a utilisé son intelligence, il a utilisé la nature, et il a fait du progrès. Mes amis, le progrès fait partie du plan de Dieu. Le progrès fait partie du plan de Dieu parce qu'il donne l'intelligence à l'homme d'utiliser son outil, si vous me permettez cette expression, c'est-à-dire la nature. Nous sommes des artisans pour la prospérité. Est-ce que cette prospérité veut dire qu'on doit s'enrichir? Le texte nous dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez les eaux, la terre, etc. Il ne dit pas devenez riche. L'ordre de Dieu, ce n'est pas devenir riche. L'ordre de Dieu, c'est de se multiplier. Mais pour se multiplier, il faut donner plus à manger. Et pour donner plus à manger, il faut défricher les forêts pour avoir des champs. Et pour avoir plus de champs, il faut des tracteurs. Et pour avoir des tracteurs, il faut de l'énergie. Vous continuez ? Et vous voyez bien que le progrès est inscrit dans le plan de Dieu. Or, le mouvement environnementaliste prêche la décroissance, prêche qu'il faut diminuer la population. Tout ça est contraire au plan de Dieu. La direction que Dieu nous donne, celle de la prospérité à travers le travail, grâce à l'intelligence qu'il nous donne, parce que nous sommes créés à son image, et que nous devons maîtriser la nature. Le jésuite Théard de Chardin avait déjà pressenti cette nécessité de ne pas se tromper avec la réalité de l'homo economicus. Bien avant la vague verte, il avait dit « Trop de gens dans l'Église conservent le secret espoir que le 19e siècle sera effacé. Et que nous nous retrouverons bientôt à la bonne époque d'avant la science et la révolution, que cet esprit prévale et ce serait le désastre final, le schisme consommé avec l'humanité. » Chers amis, si vous avez la nostalgie du passé, sachez que vous n'êtes pas dans le plan de Dieu. Si vous dites qu'avant c'était mieux, parce qu'il n'y avait pas de pollution, vous n'êtes pas dans le plan de Dieu. Ecclésiaste 7:10. Ecclésiaste 7:10. Garde-toi de dire, comment se fait-il qu'autrefois les choses allaient mieux qu'aujourd'hui? Car ce n'est pas la sagesse qui te dicte une telle question. Je traduis avec un langage plus terre à terre. Penser qu'avant c'était mieux, c'est idiot. C'est ça que dit l'Ecclésiaste. S'il vous plaît, arrêtez, nous dit l'Ecclésiaste, de dire qu'avant c'était mieux. Il n'y avait pas de pollution, l'eau était propre. Oui, et pourquoi on vit 70 ans aujourd'hui alors qu'avant on vivait 40 ans? Parce que le monde est plus pollué? C'est une totale contradiction. Si nous vivons beaucoup plus vieux aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui c'est mieux qu'avant. C'est l'évidence. Mais tout le monde répète, avant c'était mieux. Du temps de l'Ecclésiaste aussi. Le monde dans lequel nous vivons est un monde linéaire vers le retour de Jésus-Christ. Et pas en arrière, vers Abraham. Tout cela vient d'un manque de connaissance de l'amour de Dieu. Parce que Dieu est amour et il nous donne ce dont nous avons besoin, nous l'avons chanté tout à l'heure aussi. Je ne sais pas si les chantiques ont été choisis par hasard ou c'était par hasard avec un grand A, avec un grand D. Mais j'ai trouvé un grand D. Ah voilà, les cantiques ont été choisis par hasard avec un grand D. Si on continue à se multiplier, il y aura assez de richesses parce que Dieu maintient son plan. C'est lui qui dirige le monde. Et il donnera ce qu'il nous faut pour que la population croisse jusqu'au moment du retour de Jésus-Christ. Dieu aime sa création et il nous aime. Il nous a tellement aimés qu'il a donné Jésus-Christ pour qu'on change de paradigme, qu'on sorte du monde pour rentrer dans ce domaine spirituel où on est en communion avec lui. Oui, il y aura assez de ressources. Ne vous cassez pas la tête, il y aura assez de ressources pour que les Chinois aient en automobile. Il y aura assez d'eau pour que tout le monde boive. D'ailleurs, vous savez que on nous bassine les oreilles avec le problème de l'eau, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'eau, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau. Tous les enfants à l'école primaire apprennent le cycle de l'eau. Vous aussi, vous avez appris ça. Depuis que la Terre existe, la seule eau qui a été perdue, c'est l'urine des astronautes. À part ça, toute l'eau est là. L'eau qui a été créée au début est là. Pas une molécule, sauf l'urine des astronautes, n'est disparue. Donc il y a assez d'eau. Et l'homme ne s'est jamais mis où il n'y avait pas d'eau. Il ne s'agit pas de penser qu'on va aller maintenant mettre toute l'eau qu'on veut au Sahara. Ce n'est pas le but. Ce qu'il nous faut, c'est de l'eau à Genève. Ou à Pékin. Et là, il y a de l'eau. Elle est polluée. On la traite. Les chimistes sont là pour ça. L'eau n'a jamais été aussi bonne à boire qu'aujourd'hui. C'est pour ça que les Romains buvaient du vin coupé d'eau pour essayer de ne pas être malades. Parce que dans le temps, l'eau était polluée. Puisque tous les égouts allaient au même endroit et puis on buvait ça. Bravo les Escherichia coli. Je vais terminer. Dieu s'appelle aussi Jéhovah Jiré. Vous savez ça, n'est-ce pas? Le Dieu qui pourvoit. Dans pouvoir, il y a voir. Jiré, c'est une racine qui nous dit que Dieu voit nos besoins. Et quand il a vu la foi d'Abraham, qui était prêt à sacrifier Isaac, Jéhovah Jiré lui donne le bélier. Parce qu'il a vu la foi d'Abraham. Et nous sommes, nous, aujourd'hui, invités à faire confiance à la providence de Dieu. Ne pas faire confiance à la providence de Dieu, c'est croire qu'on a un Dieu minus. Et que c'est nous qui devons trouver les solutions. En créant le monde, Dieu ne l'abandonne pas à son sort. En créant le monde, Dieu n'abandonne pas l'homme à son sort. Il a déjà préparé la solution, Jésus-Christ. Et je voudrais terminer avec cette réflexion sur le retour de Jésus-Christ. Vous allez en Israël la semaine prochaine. Je travaille sur ce dossier aussi. Est-ce que vous savez qu'on a découvert du gaz en Israël? Je vais vous lire un verset dans Deutéronome, chapitre 33, et au verset 19. Je lis la fin du verset pour gagner du temps. C'est un verset qui, à mon sens, a été une énigme pour tous les Juifs jusqu'à présent. Et pour nous aussi, sans doute, en tant que chrétiens. Ils draineront d'abondantes richesses et ils recueilleront les trésors enfouis dans le sable des plages. Ils draineront d'abondantes richesses et ils recueilleront les trésors enfouis dans les sables des plages. D'un autre verset dit, dans la mer. Le traducteur, l'éditeur de cette Bible a mis une petite note qui aujourd'hui me fait bien rire. Parce qu'il se demande aussi qu'est-ce que ça veut dire ce verset, n'est-ce pas? Il peut s'agir, soit de la récolte de mollusques dont on tirait la pourpre, soit de l'exploitation du sable pour la fabrication du verre. Le Néguev que vous allez aller voir est rempli de sable. Il n'y a pas besoin d'écrire ça. En 2008 et en 2009, ce verset a donné son énigme. Israël a découvert du gaz en mer. Le tiers, pour le moment, le tiers de tout le gaz norvégien. 140 années de réserve de gaz pour Israël. Il y avait zéro, et tout d'un coup, le jackpot est là. Pourquoi ? Parce que Dieu prépare son retour. Et il sait bien qu'Israël va avoir besoin d'énergie. Et il sait bien qu'il va y avoir des problèmes en Israël. Tout ça se tient. Il n'y a pas de hasard. L'énergie, la géopolitique et Israël, tout ça se tient, c'est dans le plan de Dieu. Ce n'est pas l'objet de notre réunion ce matin, c'était celle d'hier à Lausanne, mais je peux vous assurer qu'en travaillant dans ce domaine, moi je vois le plan de Dieu se dérouler d'une manière extraordinaire. Je termine avec Matthieu 6, ce que nous dit le Seigneur lui-même. Si Dieu habille avec tant d'élégance la petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison ne vous vêtirait-il pas vous-même? Ah, votre foi est bien petite, hein? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous ou que boirons-nous ou avec quoi nous habillerons-nous. Si le Seigneur était là aujourd'hui, il aurait dit « Ne vous cassez pas la tête pour savoir s'il y a assez de pétrole. Ne vous cassez pas la tête pour savoir s'il y a assez d'eau. Ne vous cassez pas la tête pour savoir s'il y a assez de minerais. » Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent. Mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Faites donc du règne de Dieu et de tout ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Je voudrais prier avec vous. Seigneur, nous proclamons que tu es le Dieu créateur, qui en ouvrant ta bouche a créé cet univers. Cet univers si vaste qui nous surprend et l'infiniment petit qui nous déconcerte. Oui, nous proclamons que tu es grand, que tu es puissant et que tu n'as pas lancé le monde pour l'abandonner, mais que le monde est entre tes mains. Tu gères ce monde bien mieux que nous et tu nous le confies aussi, Seigneur, pour cette petite part qui nous appartient. Donne-nous d'être conscients que nous faisons partie de ton plan, que c'est un privilège d'être tes collaborateurs, de poursuivre ton œuvre créatrice, de travailler pour que nous puissions continuer à nous multiplier, parce que c'est là ta volonté. Seigneur, donne-nous aussi de remplir notre cœur de toi, et non pas d'idoles. Que nous puissions, Seigneur, faire de ton règne la priorité absolue. Tout le reste n'est que vapeur. Vanité de vanité. Une seule chose compte, Seigneur. Jésus-Christ et son règne. Aide-nous à rester fidèles à Jésus-Christ, à faire de lui la priorité de notre vie, pour que nous marchions en sainteté de vie et être constamment dans ton plan. Pour la gloire de Jésus-Christ et jusqu'à son retour. Oui, Seigneur, viens bientôt apporter la paix définitive à la terre et à la nature, parce que tu es le sauveur de toutes choses, des hommes d'abord et de la nature ensuite. Gloire à ton saint nom. Bénis cette église, Seigneur. Bénis les responsables, les anciens, le pasteur. Bénis tous les responsables de toutes les activités. Et qu'à travers eux, l'évangile de vérité, la parole de Dieu, puisse continuer à briller dans cette ville. À la gloire de Jésus-Christ. Amen.